on se retrouve à la rentrée après ce cocktail de rediffusion.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Une émission très sonore où vous allez pouvoir entendre les témoignages, les discours, les textes et les chansons de celles dont les vies sont synonymes du mot combat.
Leaving behind nights of terror and fear, I rise into a daybreak miraculously clear. I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave.
Je suis le rêve et l'espérance de l'esclave. Citation poétique et politique de Maya Angelou, figure essentielle et éclairante de l'histoire de l'émancipation des Africaines américaines, dont le portrait nous est offert par notre invitée Audrey Célestine, auteure d'un livre inspirant paru en 2020 aux éditions Iconoclaste et intitulé « Des vies de combat ». Bonjour Audrey Célestine.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques et vous assumez une écriture très personnelle, au féminin pluriel. Vous évoquez plus de 60 itinéraires de femmes rencontrées dans l'histoire, les arts ou la politique. Des femmes à votre image, Audrey Célestine. Que me répondez-vous si je vous dis que ce livre, c'est d'abord votre autoportrait?
J'en serais extrêmement honorée. Je ne sais pas si c'est un autoportrait. En tout cas, je me suis retrouvée dans beaucoup de ces portraits et j'ai essayé d'y mettre un peu du mien. Donc c'est sans doute pour cela qu'on peut peut-être un peu me reconnaître derrière. Mais non, les accomplissements qui sont narrés dans ce livre... Je pense me dépasse très largement j'aime beaucoup le rôle de passeuse, je ne sais pas si on dit passeuse, j'aime beaucoup ce rôle-là, j'adore mon métier d'enseignante et puis j'ai envie de le décliner de tout un tas de manières et notamment en racontant des vies qui me touchent et qui sont susceptibles de toucher les autres.
Elles sont femmes, elles sont noires, elles se sont libérées, c'est ce que vous admirez, Audrey Célestine, un siècle après les premières journées internationales des droits des femmes, et c'est aussi ce que vous documentez parce que votre livre met l'accent sur l'invisibilité de ces femmes dans notre histoire mondiale, et notamment des femmes africaines qui ne sont pas si présentes dans votre livre.
Effectivement, les femmes africaines ne sont pas si présentes parce que c'est vrai que je suis partie de ce que je connaissais le mieux. J'enseigne la migration et les questions identitaires et raciales en France et aux États-Unis. Je suis de la Martinique, je connais bien la Caraïbe, les États-Unis, la France. Et effectivement, j'avais aussi ces gros trous qu'ont beaucoup de mes compatriotes en France sur l'histoire, notamment des femmes africaines, même s'il y a certains noms qui reviennent, qui font écho. Moi, j'avais très envie de parler de Mariam Abba, j'avais très envie de parler de Safi Faye. Mais effectivement, il y a une sous-représentation de ces femmes-là. Le travail reste à faire en tout cas pour elles.
Je pense notamment à Hawa Thiam, que vous citez, mais dont vous ne brossez finalement pas le portrait, alors que son livre La parole aux négresses de 1978 est vraiment une pierre à l'édifice de l'histoire féminine noire africaine.
Oui, tout à fait. Alors le portrait d'Hawa Thiam est vraiment un des portraits qui me tenait à cœur. J'avais très envie de l'écrire, parce que La parole aux négresses est vraiment un livre qui m'a marqué, hein, je pense comme toutes les personnes qui l'ont lu. Et en fait, c'était assez difficile de trouver des éléments, parce que ce sont des portraits très biographiques. J'aurais finalement écrit une sorte de fiche sur son livre, ce qui n'était pas le projet. Donc je la cite, je parle d'elle. Elle habite malgré tout quelques pages du livre. Malheureusement, il n'y a pas de portrait d'elle.
L'histoire longue de l'émancipation des femmes noires s'écrit dans le livre d'Audrey Célestine et 100 ans au son de nos archives sonores sur RFI, en reportage en Ontario avec Céline Develé-Mazurel sur les traces du réseau clandestin de l'Underground Railroad conduit par Harriet Tubman au milieu du 19e siècle.
Traffic noise.
C'est le bruit de la rue.
You just walk the floor as Harriet walked.
Là, vous foulez le sol où Harriet Tubman a marché.
She's a heroine to everyone.
C'est notre héroïne à tous. En tout cas, c'est la mienne.
Little 5 foot, but very strong.
1m50 de haut, mais quelle force!
Yeah, that's one of her quotes.
Et ça, c'est une de ses citations.
Et qu'est-ce que ça dit?
I never ran my train off the track and I never laughed.
Je n'ai jamais laissé dérailler un train et je n'ai jamais abandonné de passagers.
Et ça, ça fait référence justement à toutes les personnes qu'elle a conduites quand elle était passeuse.
She was referred to as the conductor.
C'était une conductrice du chemin de fer clandestin. C'est pourquoi elle parle de ses passagers.
Well, they didn't travel by train, they walked.
Mais ils ne voyageaient pas en train, ils marchaient.
Mais on a souvent dit aussi que les chansons, les spirituals, étaient comme des messages codés.
Oui, ces chants avaient un sens, comme « Steal away to Jesus ». Ça voulait dire qu'Harriet était en train de libérer un groupe et que les autres esclaves devaient veiller. À ce moment-là, dans les plantations, les maîtres pensaient que c'était juste un vieil hymne, alors que chaque chanson, chaque spiritual avait un sens.
Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for carry me home.
He's good. Want something else?
Qu'est-ce que ça veut dire cette chanson? Parce que ça a une signification pour le chemin de fer clandestin.
Yes, that was one of the songs that are.
Oui, cette chanson fait partie des spirituals historiques. Et j'ai d'ailleurs lu que c'était la préférée d'Harriet Tubman. Beaucoup de ces chants servaient en fait de messages codés pour le chemin de fer clandestin. Et cette chanson parle d'une charrette qui lentement part du sud pour me ramener à la maison. En fait, ça signifie emmène-moi vers le nord. Le Canada, c'est la maison. C'est le message dans cette chanson.
There's another song.
Et il y en a une autre qui fait
go down Moses, way down in Egypt's land, tell O Pharaoh to let my people go.
Fille de la traite négrière, Harriet Tubman est méconnue en Europe, mais elle est une icône en Amérique. Audrey Célestine, elle aurait sauvé 300 personnes. Est-ce que c'est une légende ou une réalité?
Non, c'est une réalité. C'est un des personnages les plus connus de ce réseau de libération qui emmenait. Effectivement, pendant longtemps, moi, enfant, j'entendais parler de l'Underground Railroad et je pensais que c'était des trains, effectivement, une espèce de chemin de fer mystérieux. Mais effectivement, c'était un ensemble de personnes qui étaient mobilisées pour aider à passer vers le nord, en tout cas dans les coins qui n'étaient pas esclavagistes. Et la figure d'Harriet Tubman, elle est effectivement extrêmement connue, presque iconique aujourd'hui. Dans le contexte américain, vous avez tout un tas de petits bouquins pour enfants qui racontent la vie de Harriet Tubman. Avec mes étudiants, on lit les discours des différents présidents états-uniens. Chacun doit faire sa petite référence à Harriet Tubman à un moment ou à un autre. Mais cette iconisation, elle n'enlève pas la puissance du personnage. On l'entend dans le reportage.
Et ce qui est très fort aussi, c'est qu'elle a choisi son nom. Elle est née esclave vers 1821 dans le sud des États-Unis. Et lorsqu'elle franchit cette fameuse frontière vers le nord, quelques années avant la guerre de sécession, elle se libère elle-même et elle change d'identité. Araminta Ross devient Harriet Tubman et son effigie remplace l'image du président esclavagiste Andrew Jackson sur les billets de $20 aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, c'est effectivement la question de la représentation de ces figures-là, elle est vraiment importante. Et donc, Obama, à la fin de son dernier mandat, avait le projet de mettre Harriet Tubman. Alors, c'est un processus très long, de mettre une nouvelle figure sur les billets de banque. Et puis, le processus a été ralenti, puis arrêté sous Trump, qui ne voulait pas remplacer Andrew Jackson, qui est quand même un des plus horribles présidents de l'histoire des États-Unis.
Dont il est d'ailleurs lui-même très
voilà,
fan.
Voilà, dont il est tout à fait fan, ce qui n'est pas non plus très étonnant. Là, Biden a indiqué dès le début de son mandat qu'il accélérait le processus. Et donc, dans les prochaines années, j'imagine dans les 2 ans, on devrait avoir Harriet Tubman sur les billets de $20.
Quel symbole. Vivre libre, c'est ce qui rassemble toutes ces femmes pionnières en lutte contre l'esclavage. Audrey Célestine, un esclavage officiellement aboli en 1865, à la fin de la guerre de sécession aux États-Unis. Mais les itinéraires que vous avez reconstitués montrent que le chemin vers la liberté est beaucoup plus long.
Ça, c'est une des particularités, c'est une des choses que vous voyez lorsque vous étudiez l'histoire des esclavages dans les Amériques notamment. C'est qu'on n'est pas sur une espèce de long cheminement vers la liberté, vers plus en plus de droits. On est sur des avancées puis des reculs. Et la fin de l'esclavage, c'est aussi, après quelques années, l'augmentation de la ségrégation. Dans la Caraïbe française, ça va être les lois contre le vagabondage, ça va être la restriction d'un certain nombre de libertés, ça va être la citoyenneté qui n'est pas pleine et entière, le fait de faire venir des travailleurs d'Asie et d'Afrique pour remplacer les esclaves, ou en tout cas pour leur faire de la concurrence. Et du coup, sans dire que la situation d'un esclave dans les années 1840 est la même que celle d'une personne à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, il s'agissait aussi de montrer qu'il y a des choses qui résonnent très fort entre les histoires, que les structures très très fortes comme celle de l'esclavage, de la ségrégation, de la domination, de la hiérarchisation raciale, elles se maintiennent sous de nouvelles formes après des décennies.
And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree.
En écho au long poème chanté par Billie Holiday, que moi je n'arrive pas à écouter sans pleurer, je m'en excuse. Ces strange fruits, ces étranges fruits que sont les corps des noirs lynchés et pendus aux arbres. J'aimerais entendre dans votre voix, Audrey Célestine, les mots de la journaliste Ida B. Wells au premier chapitre de votre livre « Des vies de combat ».
À l'époque de l'esclavage, le noir était maintenu dans un état de soumission et d'asservissement par la fréquence et la gravité des coups de fouet. Mais avec la liberté, un nouveau système d'intimidation est entré en vogue. Le noir n'est pas seulement fouetté et flagellé, il est tué. Elle dévoile les pratiques barbares, les prétextes fallacieux, comme l'accusation de viol souvent brandie. Elle expose l'économie du divertissement, nourrie par les lynchages. Ces événements annoncés dans le journal, les cartes postales que l'on s'échange, illustrant les corps mutilés, l'impunité. Dans l'Amérique de la fin du 19e et début du 20e siècle, on peut assister à une mise à mort publique comme on irait à la foire, en famille. Ces mises en scène sont autant d'avertissements lancés à tous ceux qui pensaient que leur humanité était garantie. En droit, les anciens esclaves sont devenus des citoyens. Dans les faits, on les empêche de voter, d'établir des commerces, de regarder dans les yeux de ceux qui sont convaincus de constituer une espèce supérieure.
Ida B. Wells fait de sa plume une arme en 1895. Audrey Célestine, qu'est-ce qui fait la force des enquêtes de Ida B. Wells ?
Alors, ce qui fait la force de ces enquêtes, c'est la rage, sans doute, qu'elle a déjà au départ. Elle a une vraie obstination à collecter toutes les informations, à faire du journalisme d'investigation, alors que ça n'existe pas véritablement à ce moment-là. Elle cherche, elle collecte, elle écrit, puis elle écrit d'une plume incendiaire. Toute sa colère passe par la plume et elle raconte par le menu, tout ce qui se passe, la manière dont des gens sont assassinés, les raisons pour lesquelles ils l'ont été. Et tout cela la met elle-même fortement en danger. Mais cette dénonciation systématique, cette collecte d'informations et cette dénonciation publique constituent véritablement la naissance d'une nouvelle forme de journalisme et d'investigation aux États-Unis, en même temps que c'est des déclarations politiques extrêmement fortes.
Et elle sera finalement honorée à titre posthume, puisqu'elle recevra le prix Pulitzer 2020.
On dit qu'on est l'un des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité, au séjour enchanté.
Nous sommes dans l'entre-deux-guerres. Nombre de colonisés déboulent dans un Paris festif, en pleine ébullition artistique. Et si les filles sont beaucoup moins nombreuses que les garçons, deux d'entre elles réinventent le monde en noir et continuent d'inspirer les afro-féministes d'aujourd'hui.
Bon, allez, très bien, Riva Clamart. Donc là, on cherche le 7 rue Hébert. Bon, ça devrait pas être très loin.
On est ici parce que Jeanne et Paulette Nardal avaient un salon littéraire ici. C'était tous les dimanches qu'elles ont réuni les intellectuels, artistes, militants pour la cause noire, mais pas que. Même si elles ont jeté les bases de ce qui a pu donner plus tard la négritude, elles avaient des préoccupations qui étaient, d'après nous, éminemment afroféministes.
Alors, je m'appelle Alma, j'ai 29 ans. Et je suis militante afroféministe. Je suis afrodescendante, j'aime beaucoup le terme afropéenne. Je précise que je suis métisse, que j'ai une mère noire et un père blanc.
Alors, je m'appelle Sine, j'ai 27 ans, je suis chanteuse et musicienne, photographe et militante afroféministe au sein de Moissy. J'ai grandi en Ouganda, je suis née en Ouganda et ensuite j'ai vécu en Suisse.
Qui venait ici rencontrer les sœurs Nardal?
Aimé Césaire, Senghor.
Des artistes, des intellectuels, des militants pour les droits des Noirs, mais qui venaient autant de la Caraïbe, qui venaient du continent africain. Et aussi, il y a cette influence qu'ils pouvaient avoir du Harlem Renaissance, enfin, du mouvement de la Renaissance de Harlem. Et c'était aussi un lieu où il y a eu ces échanges-là entre un espace du coup, nord-américain et états-unien, et plus européen, et en même temps, pour mettre en lien
noir.
Toutes ces diasporas-là, sans les sœurs Nardal, il n'y aurait pas eu la négritude, en fait. Ici, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Ça ne fait pas partie de l'espace public, en fait. Voilà, c'est quelque chose de niche. Ça n'intéresse pas tout le monde. Et ça, c'est très français, de ce que je connais. On n'a pas forcément envie de reconnaître la nécessité d'un lieu comme ça. Il y a beaucoup d'utilisation de l'histoire afro-états-unienne pour camoufler l'histoire franco-française, ce territoire français. Du coup, c'est intéressant de voir que je pense qu'on a plus de stations de tram qui s'appellent Rosa Parks que Paulette Nardal, en fait.
Dans les oreilles d'Audrey Célestine, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille et autrice de ce livre « Des vies de combat » aux éditions L'Iconoclaste, ces jeunes femmes afro-féministes d'aujourd'hui à la recherche de Jeanne et Paulette Nardal, une histoire invisible, qu'elle se réapproprie, Audrey Célestine. Est-ce que c'était difficile pour vous de retrouver les biographies de Jeanne et Paulette Nardal? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans ce salon à Clamart?
C'était sans doute moins difficile de retrouver ces histoires aujourd'hui que ça ne l'aurait été il y a une dizaine d'années. Bah, notamment grâce à toutes ces jeunes militantes, parce qu'il y a quand même un travail acharné qui est fait par un certain nombre de collectifs pour faire remonter ces histoires-là. Qui se fait sur tout cela. Donc il y a des travaux, il y a un magnifique livre de Jennifer Boitin, qui est une historienne, et ça s'appelle Colonial Metropolis, et qui explique ce Paris colonial de l'entre-deux-guerres dans lequel se passent énormément de choses, et qui a voilà, de très belles pages sur Paulette Nardal. On a beaucoup de recherches outre-Atlantique, et puis des recherches qui commencent ici sur tout cela.
Il y a un vrai parallèle à faire avec le Harlem Renaissance aux États-Unis.
Alors il y a un parallèle, et puis il y a des circulations aussi à voir, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup ces histoires d'auteurs et d'artistes afro-américains qui arrivaient à Paris, arrivent à respirer un peu mieux, à se sentir un peu mieux, sans nécessairement parler de la situation, des populations du monde colonial français, elles-mêmes présentes en France à ce moment-là. Et c'est vrai que le travail à la fois militant et académique qui se fait depuis 10-15 ans, il permet de connaître ces espaces de rencontre comme le salon des Sœurs Nardal où se rencontrent, où il y a les intérêts à la fois de défense de ce qu'elles désignent elles-mêmes comme la race noire, mais également des défenses des ouvriers, une défense déjà très très intersectionnelle, même si le mot fait peur dans le contexte français, parce qu'il y avait une forte conscience de la part de ces femmes qui étaient quand même du milieu de la bourgeoisie antillaise, de la bourgeoisie du monde colonial.
Mais anti-vieille colonie, donc colonisée.
mais qui arrivent en fait en France et puis qui prennent la mesure de leur négritude par la manière dont elles sont traitées, puis la manière dont ceux qui leur ressemblent sont traités également. Et donc elle commence à écrire, à théoriser, puis avec cette volonté de faire se rencontrer des gens. Hein, l'idée que les intellos états-uniens, les intellos français, les ouvriers, qu'ils se rencontrent, qu'ils se connaissent, qu'on connaisse ce qui se passe dans le reste du monde colonial, que finalement Paris devienne cette capitale, une capitale intellectuelle et politique pour tous ces gens.
Est-ce qu'il signifie d'un mot qu'elles sont elles-mêmes autant les mères de la négritude que Césaire et Senghor,
Diop
peuvent être les pères de la négritude?
Absolument, et elles l'ont effectivement mis en avant par la suite en disant bah, on était quand même bien présentes et importantes dans cette histoire et puis bon, on nous a un petit peu mises de côté.
Les sœurs Nardal, martiniquaises, est moins connue dans l'espace francophone que l'africaine-américaine Rosa Parks.
Les gens de couleur, qu'espèrent-ils en augmentant la lutte contre la ségrégation? Qu'est-ce que vous espérez gagner dans l'immédiat?
Nous espérons obtenir l'égalité des droits pour tout être humain, sans distinction. C'est notre but.
Et quelles sont vos chances de réussite?
Je pense que notre campagne rencontre du succès.
Mais ça prendra combien de temps?
Je n'en ai aucune idée.
La voix de Rosa Parks dans La Marche du Monde, consacrée aux femmes noires puissantes. Une Rosa Parks connue dans le monde entier pour avoir refusé de laisser sa place dans le bus à un passager blanc le 1er décembre 1955 à Montgomery, en Alabama. C'est un acte extrêmement courageux dans l'Amérique de la ségrégation, un acte également stratégique, Audrey Célestine, pour Rosa Parks, parce qu'elle est quand même militante du mouvement pour les droits civiques aux côtés du pasteur King à l'époque.
Alors effectivement, à l'époque, elle a déjà un parcours militant important. Elle est elle-même mentor d'un certain nombre de jeunes qu'elle aide à politiser, dont Claudette Colvin,
dont vous parlez dans votre livre,
qui refuse également de laisser son siège quelques mois plus tôt, mais qui est une moins bonne candidate pour la lutte. C'est-à-dire qu'elle est jeune, pauvre, bientôt enceinte d'un homme plus âgé. Donc bon, du coup, c'est pas la bonne victime. Il y a effectivement ce sens stratégique également de la part de Rosa Parks, qui est quelqu'un de très politisé, qui ne sait pas ce jour-là qu'elle ne va pas laisser sa place. Elle ne va pas dans le bus en disant « je ne laisse pas ma place aujourd'hui ». Mais qui, en tout cas, sait que ça fait partie des choses possibles, qui sait que ça ne va pas tarder à venir. Et voilà, et ça tombe ce jour-là.
Respect est le premier grand succès de la reine Aretha Franklin en 1967. Une chanson créée par Otis Redding qui réclame à sa femme du respect quand il rentre de tournée. Mais à ce titre un peu macho, Aretha Franklin rajoute le fameux refrain R-E-S-P-E-C-T, R-E-S-P-E-C-T, et transforme la chanson en hymne du respect pour les droits civiques. Et dès 1968, Diana Ross reprend le titre. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. Si le mouvement pour les droits civiques a gagné l'égalité des droits, faut-il encore que ces droits soient appliqués dans une Amérique à feu et à sang où le président Kennedy est assassiné en 1963, Malcolm X en 1965 et le pasteur King en 1968, l'intellectuelle et universitaire Angela Davis s'engage mais devient la femme à abattre.
Personnellement, j'essaie toujours de contribuer aux causes progressistes comme militante communiste, comme femme noire qui travaille dans le mouvement des femmes. Et depuis que j'étais en prison, j'ai essayé de participer au développement de la conscience des femmes noires.
I'm representing the Che Lumumba Club of the Communist Party.
Je représente la section Che Lumumba du Parti communiste.
There is a conspiracy in the land.
Il y a une conspiration dans notre pays.
Now what is that conspiracy?
En quoi consiste ce complot? On veut anéantir, assassiner toutes les panthères noires ainsi que l'ensemble de la communauté noire aux États-Unis.
Pendant le mouvement des années 60, il y avait des problèmes parce que dans le mouvement noir, c'était un mouvement qui a parfois ignorer ce que c'était que les femmes noires, dans le mouvement des femmes, qui était plutôt un mouvement des femmes blanches, les femmes noires n'ont pas pu trouver leur place non plus. Alors nous étions entre les deux. Et je crois que maintenant, il y a une émergence d'une nouvelle énergie et une nouvelle vision des femmes noires. Je crois que nous avons achevé une certaine maturité. Nous savons comment on peut, par exemple, créer des coalitions multiraciales sans ignorer la place centrale de la lutte contre le racisme. La période qui vient va être très frappante, très importante.
Affirmer son humanité, se faire respecter en tant que femme noire est extrêmement compliqué dans les années 60. Aux États-Unis, nous dit Angela Davis, en français et en anglais. Son trajet militant est absolument passionnant. Comment, Audrey Célestine, vous expliquez son passage de la non-violence à la violence, puis à nouveau à la non-violence?
Alors, Angela Davis s'exprime elle-même sur la question de la violence. Elle s'exprime elle-même sur le fait que la violence véritable est exercée à l'encontre des populations noires américaines, qu'elle est elle-même harcelée, que tous ceux qui lui ressemblent et qui font le malheur de s'engager politiquement sont abattus. Et du coup, c'est vrai qu'à cette question de la violence, elle a souvent répondu que la véritable violence, elle est historique, elle est sociale, elle est politique, qu'elle a été auprès de cette église dans laquelle on a trouvé une bombe et dans laquelle il y avait les membres de ses petites filles qui faisaient partie de son entourage. Elle raconte ces gens abattus, etc. Et du coup, je pense que ces propos justement sur la violence, qui est un vrai enjeu de réflexion dans les mouvements politiques, ils sont importants. Et que je pense que c'est vraiment lié à la politique de répression qui a été exercée contre les militants noirs radicaux de l'époque aux États-Unis.
Est-ce que ça veut dire qu'à quelle époque, au fond, les militants noirs radicaux retournent justement un des éléments fondateurs de la nation américaine, c'est-à-dire défends-toi toi-même et pour cela, tu peux prendre une arme?
Je pense que ce qu'ils disent, c'est que globalement, ils sont violents parce qu'ils se sont menacés de mort. Elle raconte, il y a cette magnifique interview d'elle en prison par un journaliste qui lui parle justement de la violence, et elle retrace comme ça, elle lui fait un cours d'histoire sur ce que c'est que la violence véritable, la violence historique. Et ce qui est assez admirable avec Angela Davis, outre son parcours à la fois de militante mais également de penseuse, hein, parce que c'est quelqu'un qui a fait des contributions assez incroyables à la pensée politique en général, c'est cette capacité à analyser son temps, le temps dans lequel elle était, à mesurer la pression qui pouvait s'exercer sur les militants, à mesurer également les petits moments d'espoir qu'il pouvait y avoir. C'est pas une pessimiste. D'ailleurs, je pense qu'on peut pas être véritablement révolutionnaire quand on est pessimiste. On doit avoir de l'optimisme, et qu'il y a vraiment de ça chez elle. Et qu'effectivement, tout cela, du coup, est aussi corrélé à sa manière d'envisager les modes d'action politique.
Et par ailleurs, elle a toujours aussi rendu hommage à d'autres femmes noires qui ont pu l'inspirer. Je pense par exemple à une femme qui est dans votre livre et qui a été la première femme maître au barreau de la Guadeloupe.
Oui, tout à fait. Alors, Gertie Archimède, c'est vrai que c'est une histoire...
Gertie Archimède.
Oui. Gertie Archimède, avocate, qui a été aussi députée. Et ce qui est assez fou quand même, parce qu'on parlait tout à l'heure de ce qui est connu en France et de ce qui l'est moins. Moi, j'ai entendu parler d'Angela Davis bien avant d'entendre parler de Gertie Archimède, dont j'ai appris l'existence à l'âge adulte. Alors, je suis martiniquaise, j'ai grandi en Martinique, j'ai quand même de la famille guadeloupéenne. Et c'est une figure qu'on ne connaît pas, sauf si on grandit dans un milieu extrêmement politisé localement. Et effectivement, il se trouve que Gertie Archimède a été, de manière très limitée, mais l'avocate d'Angela Davis, qui avait été arrêtée lors d'un passage dans la Caraïbe. Elle avait des écrits subversifs, communistes, et elle raconte l'admiration pour cette femme et elle dit « Ah, j'aurais aimé rester là auprès d'elle et apprendre tout ce qu'elle avait à m'apprendre, parce que c'était une grande femme magnifique. » Et je pense que l'histoire de ces femmes, les histoires de ces femmes sont des histoires aussi de femmes qui transmettent ce que d'autres femmes noires leur ont appris. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très beau. Moi, j'ai une de mes collègues, Hélène Canquin, qui parle souvent de cette image de on est sur les épaules les unes des autres. Enfin, et que cette image-là, qui est très présente dans les milieux, notamment noirs américains, c'est une image fondamentale. Il n'y en a pas une qui crée tout à partir de rien. Qu'il y a des luttes qui se sédimentent, qui sont longues, qui inscrivent du coup les combats dans la très longue durée.
Et pendant ce temps, une surdouée des mathématiques vérifie les calculs des ordinateurs de la NASA pour envoyer le premier homme sur la Lune. Elle s'appelle Katherine Johnson et Hollywood a raconté son histoire dans les figures de l'ombre.
Bonjour, colonel. Je m'appelle Dorothy Vaughan. Voici Mary Jackson, dont vous avez rencontré le mari, je crois.
Tout à fait, je suis enchantée.
Et Madame Catherine Goebel. Elle est célibataire, veuve en fait. Elle a trois adorables fillettes.
Alors comme ça, vous êtes calculatrice à la NASA.
C'est exact.
Qu'est-ce que cela implique ?
Nous effectuons les calculs mathématiques nécessaires au lancement et atterrissage pour le programme spatial.
Ah, on peut dire que c'est du sérieux ?
Oui, en effet.
On laisse des femmes se charger de toutes ces...
Monsieur Johnson, si j'étais à votre place, je ne dirais plus rien.
Je ne voulais pas vous manquer de respect.
Vous l'ignorez sans doute, mais il se trouve que j'ai été la première doctorante noire de l'Université de Virginie-Occidentale. Tous les jours de la semaine, j'analyse les relevés manométriques pour l'aérodynamique, le frottement et la vélocité. J'effectue plus de 10 000 opérations de calcul avec des cosinus, des racines carrées et de la géométrie analytique cette semaine. À la main. Il y a 20 calculatrices de couleur au groupe Ouest, toutes des femmes compétentes au plus haut point, et nous participons fièrement à l'effort national. Alors oui, on confie des missions aux femmes à la NASA, Monsieur Johnson. Non pas parce que nous portons des jupes, mais parce que nous chaussons des lunettes.
J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme une mère de trois enfants et d'une personne intègre. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme une calculatrice minutieuse qui réussissait du premier coup.
Catherine calculated the flight path for America's first mission in space.
Barack Obama en personne a remis la médaille présidentielle de la liberté à Katherine Johnson. Elle avait presque 100 ans, Audrey Célestine. Et cette grande mathématicienne a elle aussi vécu la ségrégation au sein même du programme spatial de la NASA. Dans ce film hollywoodien, on voit très bien qu'elle n'a pas accès aux toilettes sur son lieu de travail, ni à la machine à café réservée aux Blancs.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'elle-même parle de ces périodes-là, elle semble un peu ignorer tout ça. Le monde était tel qu'il était et elle devait calculer, donc elle calculait.
Un vrai professeur tournesol. Voilà.
Et je trouve que ça, c'est assez parlant aussi, c'est-à-dire de cette capacité qu'ont eu un certain nombre de populations à continuer à vivre dans des conditions absolument infectes. Enfin, et du coup, moi, c'est une des choses qui m'a marquée. Enfin, moi, je suis pas très scientifique et donc je trouvais ça très, très impressionnant, tous ces calculs, mais également cette idée de, bon, ben voilà, elle faisait ce qu'elle avait à faire, le faisait de manière assez... C'était un être d'exception qui... n'avait pas de véritable discours politique sur ce qui se passait autour d'elle. Et pour moi, ça, c'était très parlant.
Elles ont voulu vivre libres. Elles ont clamé « Black is beautiful » et elles ne cessent de donner de la voix. Et on les écoute dans la marche du monde.
Vivre ou écrire, il faut choisir. C'est Sartre, évidemment, qui l'a dit. Si vous vivez, vous êtes enfoncé dans les détails de la quotidienneté de l'existence. Et quand vous écrivez, vous avez une sorte de liberté de réfléchir et de tirer peut-être une leçon. Justement, je me demande si la littérature a un pouvoir. Je pense que qu'on appartient à une région comme la région antillaise, où les gens ne lisent pas beaucoup, où les gens connaissent très bien le romancier, il suffit qu'on nous rencontre dans la rue pour qu'on nous reconnaisse. Mais si on demande à ces gens-là, bon, dites-moi un titre, il serait peut-être embarrassé. On réalise que la littérature n'a pas tellement de pouvoir.
La grande Maryse Condé, d'ailleurs, a été productrice ici, radio, à RFI. Elle pose la question du rôle de la littérature dans la conscientisation de ces sœurs noires antillaises. Ce n'est pas la littérature qui fait la révolution, écrit-elle.
Alors moi, je lis ce qu'elle dit de plusieurs manières. Effectivement, je pense que c'est pas la littérature, que la littérature ne fait pas toute la révolution. Mais Maryse Condé, c'est aussi une provocatrice. Hein. Maryse Condé, c'est aussi quelqu'un qui aime bien dire des choses qu'on n'attend pas forcément d'elle.
Comme par exemple le fait qu'elle s'est toujours sentie étrangère en Afrique.
Oui, qu'elle s'est sentie étrangère en Afrique, qu'elle ne reprend pas à son compte une grande partie des préceptes de la négritude, qu'elle n'aime pas trop les icônes. Enfin, je veux dire, elle écrit un roman qu'on considère être le grand roman de l'esclavage, et puis elle dit « Ah ben non, c'était une grande farce ». Enfin, et moi, ça, j'adore chez elle, c'est-à-dire que c'est cette affirmation. À la fois, elle construit quelque chose. Enfin, moi, elle m'inspire beaucoup. Je pense qu'elle inspire énormément d'autres personnes, y compris, enfin, notamment des femmes. Et puis, en même temps, elle met tout ça un peu à distance en se disant « Enfin, mais non, voilà, tout cela n'a pas beaucoup d'importance ». Et ça, c'est assez génial.
Et d'ailleurs, elle écrit en français et pas en créole. Et elle contredit l'idée de se définir par rapport aux origines, qu'elles soient européennes, africaines, West Indies. Elle a souvent dit que les Africains ne l'avaient pas accepté, on l'a évoqué. Et finalement, est-ce qu'elle finit pas par contredire tout l'esprit de votre livre, David Combat, Audrey Célestine?
Oui et non, parce qu'elle raconte qu'elle n'est pas acceptée de l'Afrique, mais elle explique aussi l'ensemble des préjugés avec lesquels elle arrive sur le continent. Elle explique aussi, elle raconte, en racontant tout cela, elle raconte des Afriques extrêmement différentes, entre la Guinée de Sékou Touré, le Sénégal juste après la fin de la colonisation, le Ghana de l'époque. Et elle raconte des terres qui sont différentes, des terres qui sont complexes, qui ne sont pas juste des terres magiques et des terres un peu mystérieuses. Elle raconte des endroits où elle vit sa vie de femme. Et du coup, elle a, je pense, il y a souvent une distance entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait réellement, parce que c'est justement quelqu'un qui joue beaucoup des mots et qui se joue beaucoup des gens.
Bien répondu.
La gagnante est Eusanne Palsy pour Rue Cazenègre.
J'essaierai de dire quelques mots. Je voudrais, au nom de tous les miens, remercier tous ceux qui ont cru en moi. Je remercie tout particulièrement les acteurs du film, la Martinique, pour sa contribution multiforme. Et puis, Monsieur Joseph Zobel, l'auteur du roman Rue Cazenègre, pour m'avoir fait confiance.
1984, c'est une grande première. Eusanne Palsy a ouvert la voie et d'autres réalisatrices noires se font entendre, notamment au Festival de Cannes. Écoutez Safi Faye pour son film Mossane en 1996.
Mossane, c'est une imagination. Je voulais faire mon 14e film avec une fille qui a 14 ans, qui serait la plus belle du monde, qui serait une Africaine, qui s'appellerait Mossane. Et Mossane veut dire la beauté, la pureté, la vertu. Une beauté qui serait surnaturelle, une beauté qui n'appartient pas à ce monde. Une beauté qu'on peut avoir à l'âge de 14 ans. Une beauté révoltée, une beauté de soumission, c'est l'âge de l'adolescence et toutes les contradictions qu'il y a à cet âge-là. Elle partira avec d'autres qui sont morts à son âge et qui l'attendent et qui l'ont élue et qui revenaient de temps en temps sur Terre pour contempler sa beauté. C'est sa beauté qu'il a détruite. C'est sa beauté qui a créé des conflits, c'est sa beauté. Et puis le destin. Je travaille sur le film depuis 1982. Le film a été tourné en 1990. Il y a eu 6 ans de blocage. Et en 96, quand même, il a été achevé. Je pense que c'est difficile aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Peut-être un petit point de difficulté de plus pour la femme, parce que moi, j'ai voulu être mère, j'ai voulu être cinéaste, comme dans les temps, j'ai voulu être institutrice. C'est un choix.
Safi Faye, cinéaste sénégalaise, pose la question du choix. Comme si être femme, être noire, être libre, c'était au fond double peine, Audrey Célestine, parce qu'on n'est pas un homme et parce qu'on n'est pas blond, en plus.
Bah, c'est effectivement des choses qui ajoutent aux difficultés. Je pense qu'elles sont plusieurs à annoncer, enfin, pas forcément à le dire, mais en tout cas à en faire l'expérience. Très clairement, cette difficulté à faire des films, à créer, à raconter l'histoire qu'on veut. C'est-à-dire à être pas forcément là où on vous attend. Il y a chez Eusanne Palsy comme chez Safi Faye, cette volonté de raconter des histoires aux leurs. Safi Faye, elle raconte qu'elle avait envie de raconter des histoires à sa mère, à ses parents, à sa famille, et qu'elle raconte ses histoires en faisant des films. Eusanne Palsy, avec Rue Cazenègre, elle fait un film qui est un vrai film populaire parce qu'il parle aux gens de son pays. Et tous les gens qui connaissent la Martinique, qui le voient, enfin pas que, mais sont extrêmement touchés par cette Martinique qu'elle raconte. Et puis en même temps, c'est des femmes qui ont envie de raconter ce qu'elles veulent. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile. À la fois, quand elles veulent raconter des histoires qui les touchent, on pense que ça n'intéresse personne, que c'est de la niche, que c'est tout petit, que ce n'est pas forcément intéressant. Et puis quand elles veulent raconter autre chose, partir dans leur propre chose, ben on ne leur donne pas non plus cette légitimité pour pouvoir le faire.
Alors il reste que plus qu'à... Et vous allez chanter ?
Ouh là là !
Je sais que c'est peut-être même votre chanson préférée.
C'est une de mes chansons préférées.
Si vous pouvez souper à mes potes là d'ailleurs,
moi, Jordina. Mais tous les Martiniquais connaissent cette chanson.
C'est pas la peine, fais warning en peine, maman.
Vous nous racontez un peu les paroles, hein?
Ben en fait, c'est une chanson qui raconte un chagrin d'amour. Elle dit à l'être aimé quand. Si tu dois t'en aller, juste ferme cette porte derrière toi, va-t'en, parce que sinon le soleil va venir regarder ma tristesse, mes larmes. Et donc il y a toute une partie de la chanson où elle raconte l'écrasement, la tristesse, le limbé, c'est ce qu'on... Elle parle de ça, le limbé, c'est le chagrin d'amour mêlé de saudade aux Antilles. Et puis la deuxième partie de la chanson, c'est « Mais c'est pas grave, moi je vais réussir à me relever, je me relèverai parce que je suis une malfemme, je suis une battante. » Et les malfemmes, ben, elles ne cèdent pas très longtemps, elles réussissent à se lever à nouveau. Et donc ça, c'est une chanson que je pense les femmes de Martinique connaissent toutes. On a presque envie d'être quittées pour pouvoir chanter cette chanson et pouvoir se relever.
Et levez-vous, on le dit comment justement ?
Moi, qu'est-ce à lever ? Qu'est-ce à lever ? Je saurais me relever, je saurais le faire. Et non, moi, je trouve cette chanson fantastique et je raconte dans le livre comme, voilà, je me suis retrouvée un 25 décembre, le soir, au bord de la mer, et puis il y avait une famille qui était en train de finir la fête de Noël, et puis d'un coup, ce morceau-là arrive, et alors toutes les femmes ont commencé à chanter, et elles ont demandé 5 ou 6 fois à ce qu'on remette la chanson, et c'était fantastique, ce cœur de femmes au soleil couchant, rappelant, racontant la résilience, dans une terre dans laquelle il y a beaucoup d'histoires, comme dans beaucoup d'endroits, de femmes abandonnées, de femmes qui se sont occupées seules de leurs enfants. Je trouve que c'est une belle chanson. C'est une belle chanson.
Levez-vous, qu'ils aient levé. Levez-vous, chante Jocelyne Berroir du groupe Kassav. Nous sommes au XXIe siècle, le siècle d'une nouvelle génération de femmes qui cartonnent et assument leur statut de super-héroïne.
Difficile de la rater hier à Roland-Garros. Serena Williams s'est offert un retour gagnant en sortant la 70e joueuse mondiale, 8 mois seulement après avoir accouché. Mais c'est aussi la tenue de la joueuse américaine qui a fait parler. Elle est arrivée en combinaison noire moulante et ceinture rose, façon super-héroïne.
Avec, je me sens comme une guerrière, comme une princesse guerrière. J'ai toujours vécu dans un monde fantastique. J'ai toujours voulu être un super-héros. Alors c'est ma façon d'être une super-héroïne. Et puis, c'est aussi pour toutes ces femmes qui sont passées par plein de choses difficiles, physiquement ou mentalement avec leur corps, et qui reviennent et reprennent confiance en elles.
J'adore ça, non seulement elle est debout, mais en plus, elle s'affirme comme super héroïne, Serena Williams.
Tout à fait. Moi, je ne suis pas très tennis, mais Serena Williams,
mais
elle dépasse.
Vous êtes très Serena Williams.
Je suis très Serena Williams. Non, mais ça fait partie de ces figures qu'on a vues grandir, dont on a entendu tout un tas de choses sur l'enfance, et qui, dès l'adolescence, en fait, est sous une espèce de pression médiatique à qui on essaye de rabattre complètement la confiance. Et cette histoire-là, elle est connue. Puis il y a aussi cette question du corps. Je pense que la question du corps, elle est essentielle également, d'avoir ce corps qui n'est pas le petit corps féminin tel qu'on l'imagine et qui ne correspond pas à la réalité, et d'avoir ce corps qui est à la fois puissant et extrêmement féminin, de devenir une icône de la mode, alors même qu'on l'a beaucoup masculinisé, ce qui est un des tropes anti-femmes noires assez important, voilà, d'en faire des quasi-hommes, etc. Et puis de voir qu'elle est devenue une espèce de modèle de féminité, d'une féminité autre. Moi, je trouve que c'est important.
Et elles sont nombreuses à s'assumer justement en tant que femmes puissantes et justement créant leurs propres images, de Beyoncé à Bintou Dembélé, la chorégraphie pop qui revisite les Indes galantes, en passant par Alice Diop, documentariste de la condition des migrants, ou même Fatou Niang, réalisatrice des Marianne Noires. Elles sont très nombreuses si on décide tout simplement de les regarder comme autant de femmes agissantes. Et ce que vous évoquez au fond, à mon micro, ici, dans la marge du monde à RFI, Audrey Célestine, c'est le regard qui assigne, et c'est ce regard que ces femmes participent aujourd'hui à inverser, au fond.
Oui, complètement. Ce regard qui assigne, ce regard qui construit des êtres qui seraient autres, qui seraient radicalement autres, qui les racialise. Elles sont... des dizaines et des dizaines, notamment dans la période contemporaine, à déconstruire tout ça, à le décliner de manière un peu différente. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans cette démultiplication de femmes, on en a plus en plus de ces femmes. Dans le dernier chapitre, elles sont encore plus nombreuses et j'ai dû faire des choix en plus. Ça donne de la force d'avoir à la fois ces femmes qui étaient là avant et puis d'avoir voilà, celles qui utilisent la plume, celles qui utilisent la danse, celles qui utilisent le cinéma, mais qui ne disent pas toutes la même chose, qui défendent des individualités et qui en même temps sont au service malgré tout d'un collectif. Et pour moi, c'était important de le faire et de le faire pendant qu'elles sont actives, pendant qu'elles sont en train de faire des choses. C'est loin d'être achevé, c'était aussi important pour moi.
Et on ne se quittera pas sans écouter une voix exceptionnelle de plus, Audrey Célestine. Je vous dis rien, je vous laisse réagir avec votre cœur juste après ça.
L'histoire des femmes, c'est une longue histoire de résistance, c'est une longue histoire de conquête. Donc en tant que femme, j'ai tellement de choses à conquérir. En tant que pauvre, je n'ai rien à retenir, je n'ai pas à me crisper par rapport aux richesses matérielles. Et puis, noir. C'est fabuleux, noir, parce que c'est un kaléidoscope de couleurs, noir. C'est un état d'esprit, ce sont des cultures, c'est de la très belle littérature, c'est le jazz, ce sont toutes ces cultures, musique, religion, syncrétique des Amériques, des Caraïbes. Noir, c'est absolument insaisissable. Voilà, donc j'ai tout cela, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur capital.
Alors c'est très très fort ce que dit Christiane Taubira ici, et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Noir au départ, c'est une assignation, c'est quelque chose qui s'impose à des gens qui n'étaient pas noirs, qui ne se désignaient en tout cas pas comme ça. Et l'histoire a fait que, alors même qu'on leur enlevait leur humanité, ils ont retourné le stigmate et ils ont fait ce que le journaliste Ta-Nehisi Coates appelle la transformation d'une race en peuple, c'est-à-dire que we were made a race, we became a people. Alors, il parle des États-Unis, mais le fait d'avoir donné un contenu à quelque chose qui était d'abord supposé vous écraser, vous tuer et en faire de la richesse, c'est un processus tellement humain et tellement fort qu'effectivement, j'adhère complètement à ce que dit Christiane Taubira ici.
Et c'était l'occasion aujourd'hui de fêter les femmes noires et on les embrasse toutes. Bien évidemment, merci beaucoup Audrey Célestine. Merci. Vous auriez toute votre place dans votre propre bouquin, David Combat, aux éditions Iconoclaste. Ainsi s'achève Femme Noire Puissante, un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Sophie Jeannin, avec la complicité de nos documentalistes Vanadis Feuille et Laurence Sarniguet. N'hésitez pas les filles à faire un maximum de bruit sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Je ne vous entends pas assez. Exprimez-vous, abonnez-vous à notre podcast. Cette émission, c'est la vôtre.
Géopolitique, le débat.